Donc je vais suivre assez fidèlement le plan que je vous ai donné. Je vais d'abord faire l'introduction maintenant, et puis ensuite j'expliquerai un petit peu le fonctionnement cette année. Voilà. Donc l'idée c'est un itinéraire de consécration à Marie. D'où vient cette idée ? Ça s'est pas fait au fur et à mesure comme je le mets dans l'introduction. Ça a été différents éléments. Donc je les mets dans le désordre, mais c'est pas très grave de leur apparition. Le pape, le 10 mai 2015, je vois ça dans Zénith, il envoie une lettre à un évêque, l'évêque de Savone, en Italie, pour les 200 ans du couronnement de la statue de la Vierge de Notre-Dame de la Miséricorde. Alors c'est une statue donc en Italie qui fait suite à des événements miraculeux, donc une apparition de la Vierge. La Vierge apparaît donc dans ce petit village d'Italie au paysan Antonio Botta. Il demande la pénitence, la conversion. Et avant de prendre congé, il lui dit « miséricorde et non justice ». Voilà. Et à un moment dramatique de l'histoire de l'Europe, le pape Pie VII, enlevé par Napoléon, emprisonné à Savone, reçut l'autorisation de se rendre au sanctuaire. Il fit vœu qu'une fois libéré, il reviendrait pour la couronner. Et ce fut le cas le 10 mai 1815. Donc, 200 ans après cet événement, le pape il envoie une petite lettre. Et puis, profitant de cet événement où la Vierge apparaît en disant « miséricorde et non justice », il dit ceci dans cette lettre « Je souhaite donc qu'à l'approche de l'année sainte extraordinaire, il y ait dans toute l'Église une réflexion sur la consécration à la Mère de la Miséricorde, que cette consécration se répande sur cette même terre où celle-ci a laissé à jamais la trace de sa tendresse et de sa proximité, avec le peuple de Dieu pèlerin dans le monde. » Voilà, donc vous voyez, entre deux zéniths, enfin entre deux... Il y a beaucoup de choses dans Zénith, qui apparaît tous les jours. J'ai vu ça, et bien le pape nous dit que ça serait pas mal quand même de faire une réflexion. Une réflexion, c'est jamais intellectuel, chez le pape, ça veut dire une démarche de consécration à la Mère de la Miséricorde. Donc voilà, ce texte-là, je le mettrai sur Internet, donc vous pourrez le télécharger. L'idée de faire une consécration à Marie, c'est aussi le grand initiateur de la consécration, celui qui en parle le mieux, à mon avis, c'est quand même Louis-Marie Grignon de Montfort. Et vous savez peut-être pas, mais que nous allons fêter donc l'année prochaine, le 28 avril 1716, le troisième anniversaire de sa mort. 300e anniversaire, j'ai dit trop. Le tricentenaire. J'ai mis 1815. Non, le 10 mai 2015, ça c'est la lettre du pape François. Voilà, donc c'est 200 ans avant pour... Savone. Et donc, Louis-Marie Grignon de Montfort, mort un 28 avril 1716 au cours d'une mission à l'âge de 43 ans. Donc, il est né exactement en... Enfin, moi, je vais avoir 43 ans en avril 2016. Non, vous voyez, il est né en 73, en 1700. En 1673. Voilà. Bon. Moi, je suis né en 1973. Bon. Bon, enfin, ça, c'est une petite coïncidence. Faut pas non plus voir partout. Donc, 300e anniversaire de la mort. Louis-Marie Grignon de Montfort a quand même une autorité puisque le pape Jean-Paul II le cite largement, notamment dans sa lettre sur le rosaire. Et sa devise, il la prend à Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc certains le connaissent un petit peu, je voudrais juste dire, le resituer. Donc, né en 1673 à Montfort-sur-Meu, c'est un prédicateur itinérant qui a énormément prêché de retraites. Alors ça, c'est assez intéressant, des retraites itinérantes. Il allait dans les paroisses et pendant une semaine, 10 jours ou plus long, eh bien, il exhorte. Et ses retraites, ses itinéraires, hein, il a toute une pédagogie, se termine par une consécration à Marie. En fait, un renouvellement des promesses du baptême et qui passe par, voilà, par cette consécration à Marie qu'on verra en détail. Il va fonder donc les Montfortins, les frères de Saint-Gabriel, et avec une certaine Marie-Louise Trichet, il va fonder les Filles de la Sagesse. Voilà, c'est un homme assez radical, qui a une théologie assez simple. Vous voyez, c'est pas très compliqué quand on lit. On peut trouver le style un peu vieilli. Certains ont dit ça. Moi, je trouve pas que ce soit tellement vieilli, mais enfin bon, voilà. Et donc, on dit ceci en 1716, au terme d'une ultime mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre, épuisé, la croix du Christ d'une main, la très sainte Vierge dans l'autre, il expire en paix par ces mots. Je suis entre Jésus et Marie, Deo gratias et mariée. Gloire, voilà, gloire à Dieu. Merci pour Marie. Voilà, donc Louis-Marie Grillon de Montfort. Voilà, donc ça c'est le deuxième objet. On se dit, mais tiens, c'est bien de faire ça parce que il y en a un qui a renouvelé les paroisses. Il s'appelle Louis-Marie Grillon de Montfort. Il le faisait par une consécration. Donc c'est peut-être pas vieilli, surtout que le pape le cite. Le troisième argument, c'est à cause de nos paroisses. En fait, l'année dernière, vous avez eu un enseignement sur l'Eucharistie, voilà, qui est disponible sur Internet maintenant, vous pouvez télécharger. Et après l'Eucharistie, eh bien, l'Eucharistie, on pense plus à notre paroisse Saint-Pédis, avec l'adoration perpétuelle. Eh bien, comme on a une deuxième paroisse qui est mariale, qui est dédiée à la Vierge Marie, c'est bien de faire quelque chose sur Marie. Comme ça, on épouse, comment dire, la physionomie de nos paroisses. Alors, en même temps, voyez, tout ça, c'est après coup, enfin, c'est plus ou moins inconscient. Dans l'économie divine, le Christ d'abord se révèle, et ensuite Marie se révèle. Louis-Marie Grignon, je vais l'appeler Louis-Marie à chaque fois, c'est plus facile. Louis-Marie disait, c'est important que Marie se soit pas dévoilée dans ses grandeurs au début, parce que sinon ça aurait fait de l'ombre à Jésus, et les gens auraient été tout de suite vers Marie, etc. Donc il faut aller d'abord dans l'économie divine, que d'abord le Christ se révèle, et progressivement, en fait, Marie se montre, voilà, dans sa mission. Donc, vous voyez, on épouse en quelque sorte l'économie divine en faisant le cours l'un après l'autre. Voilà, qui est bien résumé dans notre logo. Il y aura l'explication du logo aussi sur Internet, parce que pour le moment, l'explication, vous ne l'avez que dans le carnet de chants. Et puis, le pape Jean-Paul II, en fait, lui-même, a épousé ces deux, comment dire, ces deux volets, le volet sur Jésus, le volet sur Marie. Et il le dit dans son texte, donc sur le rosaire, au numéro 3. Il dit ceci: c'est pourquoi, faisant suite à la réflexion proposée dans la lettre sur le nouveau millénaire, dans laquelle, après l'expérience jubilaire, j'ai invité le peuple de Dieu à repartir du Christ, j'ai senti la nécessité de développer une réflexion sur le rosaire, presque comme un couronnement marial de cette lettre apostolique, pour exhorter à la contemplation du visage du Christ en compagnie de sa très sainte mère et à son école. Donc, il dit, voilà, il a envoyé cette lettre superbe sur le nouveau millénaire en nous disant, ce que je vous propose, c'est de vivre le nouveau millénaire d'une certaine manière, donc on pourrait relire cette lettre, et il nous dit, pour bien le vivre, pour rentrer dans cette contemplation du Christ, j'ai senti, voilà, intuitivement, la nécessité de développer une réflexion sur le rosaire. Vous voyez, on a déjà une clé sur le rosaire, comme si le rosaire était la clé pour contempler le Christ. Donc voilà, donc ça tombe pas mal. Après l'Eucharistie, après le Christ, de passer à cette contemplation sur Marie. Le quatrième argument, c'est Jésus lui-même qui nous dit à travers l'ange, vous savez, à Joseph, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Cette phrase-là, vous l'avez au début de l'évangile et vous l'avez à la fin de l'évangile, puisque sur la croix, Jésus dit un petit peu la même chose à Jean. « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Hein? Voici ta mère. » Ce « voici ta mère », c'est une manière de prendre Marie chez soi. Donc, en fait, ne séparons pas, voyez, ce que Dieu a uni. Dieu veut, en fait, le Christ veut qu'on prenne Marie. On verra comment Marie est à la fois la mère du Christ, d'une certaine manière l'épouse du Christ. On le voit vraiment à Cana. Et aussi la fille du Christ. Elle est disciple du Christ. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment le désir de Jésus. Hein, dans cet échange sur la croix, en Jean 19, de prendre Marie. Ben, si Jésus veut qu'on le fasse, ben, obéissons à Jésus. Et puis, cinquième point, je vous ai mis le texte. Donc j'ai mis VD. Alors VD, ça veut dire « vraie dévotion ». Traité de la vraie dévotion. Voilà. Donc, en ces derniers temps, le dévoilement du mystère de Marie. Ah ben, j'en ai déjà un peu parlé d'ailleurs. Bon. Oui. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous lirez chez vous. Hein, c'est plus simple. Voilà. Hein? Voilà. Alors, les documents de base qu'on va avoir... C'est évidemment les textes de Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, le texte qui fait sur la consécration, c'est le texte le plus accessible, c'est le Secret de Marie, qui est en fait l'abrégé du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Le Secret de Marie, vous le trouvez sur Internet sans problème, gratuitement. Ça s'achète aussi à 3-4 euros, partout. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Louis-Marie Grignon a écrit le traité de la vraie dévotion. Hein, ça a été ça. Comment il dit à propos du traité? Il dit « J'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public et en particulier dans mes missions pendant bien des années. » Il le dit au numéro 110. C'est intéressant, vous voyez, c'est un écrit de mission, le traité de la vraie dévotion. C'est pas un théologien qui est dans son bureau à faire des spéculations. Il a expérimenté des choses et donc il va les écrire. Et il se trouve que il sent le désir, il y a une demande même pour simplifier ce texte-là, qui est un petit peu long. Il n'est pas compliqué, mais il est long. Donc il va écrire le secret de Marie, qui va faire 37 pages, alors que l'autre en fait 184, qui a été écrit aux alentours de 1712, entre 1712 et 1715. Donc vous voyez, vraiment à la fin de sa vie, à une personne pieuse, une nantaise, qui s'appelle Mademoiselle Dauvez. Alors c'est intéressant, cette dame, cette Mademoiselle Dauvez, était directrice de l'asile d'incurables que Louis-Marie avait fondé à Nantes. Voilà. Donc il lui écrit quelque chose de simple pour qu'elle puisse vivre son ministère, auprès des gens de l'asile. En vivant toutes choses en Marie. Alors, cet écrit de 1712 a été ensuite caché à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans un champ voisin de la chapelle dédiée à Saint-Michel. Donc on l'a retrouvé un siècle plus tard. Il a été caché pour être soustrait aux troubles de la Révolution française. Il va rester oublié jusqu'en 1842. Il faut imaginer 1712-1842, ce qui est énorme. Bon. Le mot secret n'est pas de Louis-Marie Grignon de Montfort. Hein. C'est, en fait, il n'y avait pas de titre, il y avait des feuillets, ils étaient tous là. Et donc, ceux qui ont mis en forme, je sais pas trop qui, en fait, on dit, bah, tiens, on va mettre Secret de Marie, parce qu'à un moment donné, il parle du secret à l'intérieur. Hein. Mais le sous-titre, c'est Préparation au règne de Jésus-Christ. Voilà. Bon, tout ça, c'est expliqué au début. Hein. Voilà. Alors, avant que je parle de la consécration, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement. L'idée, c'est donc en fait de cheminer avec la Sainte Vierge pour avoir ses sentiments à elle, voir en fait un petit peu comment elle vit avec le Christ. Voilà, on va le voir, le plus grand disciple, c'est Marie. Elle est la reine des apôtres. Bon, un nom va être apôtre, on va être disciple missionnaire, comme dit le pape François. Ben, si c'est la reine des apôtres, celle qui préside à la Pentecôte, qui en quelque sorte, par sa présence, attire l'Esprit Saint sur l'Église, eh bien, suivons-la. Hein, il n'y a pas de personne plus proche du Christ que Marie. Hein, on le verra dans l'évangile d'aujourd'hui. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Hein, donc c'est intéressant cet évangile qui tombe par hasard aujourd'hui. Quelle est celle qui a fait la volonté de Dieu? C'est vraiment Marie, voilà, hein, qu'on voit à l'Annonciation. Donc normalement, si vous voulez, en suivant cette éducation du Christ vers Marie, on va voir comment Jésus éduque Marie. Eh bien, progressivement, si on se met dans les mains de Marie, elle va nous retransmettre cette même éducation. En général, vous éduquez les gens comme vous avez été éduqués, plus ou moins. Bon. Et le but donc de cette éducation, c'est de nous remettre en Marie, dans ce moule. Louis-Marie en parle comme d'un moule. Jésus a eu sa forme en Marie. Marie, ce tabernacle, comme un sculpteur. Alors, soit vous sculptez en taillant, bon, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'à chaque sculpture, on n'a pas toujours le même résultat. Soit vous faites vous faites un moule autour d'une superbe sculpture, un moule, puis ensuite vous enlevez le moule, et puis vous mettez, je sais pas quoi, la terre, voilà, et puis ça devient comme l'original, quoi, voilà. Donc c'est un petit peu ça, Marie. Donc on va le voir au fur et à mesure. Alors, l'idée, c'est qu'on ne soit pas simplement dans un discours sur Marie, mais qu'on puisse prendre le rosaire en main pour rentrer dans cette école. On va rentrer dans cette école avec l'intelligence et aussi avec la prière. Et donc je vous ai mis dans une double page les textes que je trouve les plus importants sur la lettre de Jean-Paul II sur le rosaire. En quelque sorte, il nous dit pourquoi prier le rosaire. Donc voilà, le rosaire pour aller au Christ par Marie, pour être introduit dans la contemplation du Christ, pour être introduit dans la mémoire événement de Marie, pour apprendre le Christ, pour se conformer au Christ, avoir la forme du Christ. Donc tout ça, je les lis pas maintenant, mais vous les lisez chez vous, c'est très très important. Et après, deuxième point, le rosaire, une école de prière. Bah, tout ça, vous le lirez, voilà, chez vous. Alors le but, enfin, vraiment, quand on va prier le rosaire tout à l'heure, donc il va y avoir 1 heure de conférence, et ensuite on va prier le rosaire. Donc pour prier le rosaire, on enlèvera peut-être nos tables, ça fera un petit break. Et puis on se mettra autour de l'icône. Voilà. Je pense qu'en 5 minutes, on peut ranger les tables et se mettre autour de l'icône. C'est bien comme solution. Alors voyez, le but dans la prière du rosaire, c'est pas de réciter mécaniquement des choses, mais c'est en fait de prendre Marie avec nous. Hein, le chapelet qu'on peut avoir en main, hein, c'est Louis-Marie qui en parle dans le traité de la vraie dévotion. Il dit que c'est En quelque sorte, c'est prendre un peu la main de Marie, hein, avoir comme ça ce lien avec elle. Bon. Alors j'ai amené des chapelets, là j'ai des chapelets pour ceux qui n'en ont pas. Bon, vous me demanderez, je vous donnerai un chapelet. Et la manière de prier le Notre Père, vous voyez, prenez le texte numéro 32 là, enfin la page 2 sur le rosaire, RVM, RVM ça veut dire le rosaire de la Vierge Marie, la manière de prier le Notre Père. Vous avez tous le texte au milieu ? Après l'écoute de la parole et la focalisation sur le mystère, il est naturel que l'esprit s'élève vers le Père. En chacun de ces mystères, Jésus nous conduit toujours au Père auquel il s'adresse continuellement parce qu'il repose en son sein. Il veut nous introduire dans l'intimité du Père pour que nous disions comme lui « Abba Père ». C'est en rapport avec le Père qu'il fait de nous ses frères et qu'il nous fait frères les uns des autres en nous communiquant l'Esprit qui est tout à la fois son Esprit et l'Esprit du Père. Voilà, donc notre Père, il nous dit, voilà, vous allez prier notre Père, pourquoi ? Pour entrer dans le sein du Père. Hein. Voilà, pour être caché, hein, notre vie cachée avec le Christ en Dieu, comme dit l'Épître aux Colossiens chapitre 3. Hein, ou alors, comme dit le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Donc par le Christ, je me tourne vers le Père. Je repose dans le sein du Père. Alors, vous voyez, ce qui m'intéresse plus, c'est le numéro 33 en dessous. La première partie de l'Ave Maria, tirée des paroles adressées à Marie par l'ange Gabriel et par sainte Élisabeth, est une contemplation d'adoration du mystère qui s'accomplit dans la Vierge de Nazareth. Ces paroles expriment pour ainsi dire l'admiration du ciel et de la terre et font en un sens affleurer l'émerveillement de Dieu contemplant son chef-d'œuvre, l'incarnation du Fils dans le sein virginal de Marie, dans la ligne du regard joyeux de la Genèse, de l'originel pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. Donc là, il fait référence au cri de Dieu, Dieu vit que cela était bon. Voilà, il admire la création. Dans le rosaire, le caractère répétitif de l'Ave Marie nous fait participer à l'enchantement de Dieu. C'est la jubilation, l'étonnement de la reconnaissance du plus grand miracle de l'histoire. Il s'agit de l'accomplissement de la prophétie de Marie. Désormais, toutes les âges me diront bienheureuse. Donc c'est intéressant, on est en train de nous dire, pour prier le « Je vous salue Marie », il faut que vous rentriez dans une admiration du ciel vers la créature. Je vais, vous voyez, quand je dis le « Je vous salue Marie », j'entre dans les sentiments de Dieu qui admire le paradis de Dieu, pour prendre une expression de Louis-Marie, Marie qui est le paradis de Dieu, ce lieu, ce chef-d'œuvre extraordinaire. Et donc je rentre dans une action de grâce, une contemplation, une beauté. Vous voyez, chaque « Je vous salue Marie » est comme un mini magnificat où j'admire la créature qui est Marie, la plus grande des créatures en ce monde. Voilà, contemplation admirative. Et dans la manière de prier le « Gloire au Père », numéro en dessous, dans la mesure où l'admiration du mystère a été attentive, profonde, ravivée d'ave en ave, par l'amour pour le Christ et pour Marie, la glorification trinitaire après chaque dizaine, loin de se réduire à une rapide conclusion, acquiert une juste tonalité contemplative, comme pour élever l'esprit jusqu'au paradis et nous faire revivre d'une certaine manière l'expérience du Tabor, anticipation de la contemplation future. Il est heureux que nous soyons ici. Bon. Oui, le pape Jean-Paul II, il vous dit, quand vous faites gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il faut vous imaginer, un petit peu comme saint Ignace, que vous êtes au Tabor. Parce qu'au Tabor, vous avez la transfiguration, vous avez le Père qui dit, celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous avez la nuée lumineuse, signe de l'Esprit-Saint. Et vous avez le Christ, entre Moïse et Élie. Donc vous avez une épiphanie, une manifestation de la Trinité. Donc à chaque gloire au Père, mettons-nous en esprit au Tabor. Voilà. Donc Bon. Voilà. Donc, les premiers textes dans cette feuille que vous allez lire chez vous vont comprendre en quelque sorte en quoi le chapelet est un itinéraire pour rentrer dans la connaissance du Christ, entrer dans les sentiments du Christ, à travers la méditation qui va précéder chaque dizaine. Et une fois que j'ai médité le mystère, j'entre dans cette admiration à la fois du mystère et à la fois de celle qui vit le mystère à sa façon, qui est Marie. Alors, du coup, je vous ai donné un programme, le programme que je vais plus ou moins respecter au niveau des thèmes. Parce que bon, je fais ces thèmes-là, mais je vais voir au fur et à mesure. Vous voyez, l'annonciation, la visitation, etc. Bon, mais peut-être que je ferai d'autres thèmes. Bon. En tout cas, à chaque fois, vous avez enseignement, et puis 15 jours après, partage et prière. Enseignement, partage et prière. Enseignement, partage et prière. Puis vous avez des vacances entre chaque. Bon. Donc, l'idée, c'est que. Il y a un enseignement en gros une fois par mois, enfin plus ou moins, parce que vous voyez, on passe du 22 septembre au 3 novembre. Bon. Et donc, pour pas que ça se distancie trop, et puis certains m'ont dit, en fait, on aimerait bien aussi avoir un temps un petit peu de partage, puisqu'on l'a expérimenté par ailleurs dans d'autres fraternités, on trouve que c'est bien. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir aussi un temps de partage pour revenir sur ce qui a été évoqué et pour prier ensemble? Donc entre chaque enseignement, il y a une possibilité, et c'est là où je vais vous demander de remplir cette feuille et de la rendre à la sortie, d'avoir une petite fraternité qui va se passer chez vous. Il y aura un responsable de fraternité qui ne sait pas encore qui va être responsable, enfin il va être contacté, et qui va appeler les autres. Et donc vous vous retrouverez, alors moi je pense que le mardi à 9h15 c'est le mieux, après. Peut-être que la première rencontre, faut faire le mardi à 9h15. Et puis, si vous sentez que c'est beaucoup mieux que ce soit le soir, tous. Bon, mais la règle, c'est un peu mardi pareil. Après, si tout le monde est d'accord, après, si tout le monde n'est pas d'accord, c'est compliqué. Et puis, la fraternité, elle explose dès les 15 premières minutes. Voilà, donc, vous verrez, à la fin, j'ai mis des questions. À la fin de l'enseignement, à chaque fois, il y aura quatre questions à partager. J'ai vu d'ailleurs qu'à la dernière question, j'ai fait une faute. Bon, enfin, c'est pas grave. Quels sont les points obscurs? Les points, c'est. Voilà, c'est pas féminin, donc c'est ELS. Voilà. Donc, ce qui est important, il y a d'autres. Il y a des personnes qui ont déjà une fraternité, qui disent, écoutez, moi, j'ai déjà tel ou tel groupe, je suis aux équipes Notre-Dame, par exemple, ou je suis à tel groupe. Et donc, ça fait beaucoup d'avoir deux ou trois fraternités. Donc, je viendrai simplement à l'enseignement. Je ne viendrai pas à la fraternité. Bon, voilà. À ce moment-là, vous le mentionnez. Moi, je pense que c'est très profitable de vivre aussi cette fraternité de prière, mais il faut être souple. Bon. Dans cette fraternité, donc, il y a ce temps de partage. Moi, je pense qu'il est mieux de le faire après le chapelet, où vous pouvez très bien faire, par exemple, deux dizaines de chapelets. Et puis ensuite, un temps de partage, et ensuite, les trois dernières dizaines, par exemple, voyez, pour que le partage soit vraiment intégré dans la prière et soit pas à côté de la prière. Il va falloir qu'il y en ait un qui anime le chapelet. Donc vous allez mentionner, ben, je veux bien une fraternité une fois par mois. Il y a un enseignement une fois par mois, une fraternité une fois par mois, ce qui fait tous les 15 jours. Bon. Je veux bien une fraternité une fois par mois, et je suis prêt à prendre en charge le chapelet, donc à méditer. Alors, comment on fait pour prendre en charge? Ben, on prend un petit livre, on voit si c'est adapté. Il ne faut pas que ce soit des méditations qui font, je sais pas quoi, 3 pages, parce que sinon on s'en sort plus. Ou on écrit soi-même la méditation, on fait ce qu'on veut. Il faut être très libre. Bon, voilà. Et puis, je veux bien ça, animer le chapelet en fraternité. Et puis après, chacun fait une dizaine. Enfin, ça, c'est assez simple, hein. Bon. Et puis, il y en a aussi qui sentent qu'ils sont capables. Ils pourraient très bien aussi animer un chapelet ici. Donc aujourd'hui, je vais animer le chapelet. Nous dirons les mystères douloureux parce que nous allons parler des mystères douloureux. Enfin, ça va être le mystère de la croix aujourd'hui. Donc le mois prochain, c'est-à-dire le 3 novembre, ça sera l'Annonciation. Donc nous allons méditer les mystères joyeux. Voilà. Et donc il faudra que quelqu'un médite les mystères joyeux. Donc vous êtes plusieurs à être capables de le faire. Hein, je vous vois là. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez peut-être mentionner, je veux bien animer les mystères ici en grand public. Voilà. Et puis donc chacun aura le jour où il prépare la méditation. Est-ce que ça va pour le fonctionnement? Tout le monde est au clair? Donc merci de bien déposer votre papier avant de partir. Voilà. Alors, non. Je continue. La consécration à Marie, mon grand 3. Ça va? Alors, c'est quoi la consécration à Marie? Pourquoi? Vous savez, je vais parler au fur et à mesure de ce que c'est qu'être consacré à Marie. Et puis, ah oui, alors je ne vous ai pas dit la dernière chose. Donc, le but, à la fin, c'est qu'on vive une consécration à Marie. Bon. Sous quelle forme? J'ai envie, intuitivement, Louis-Marie en parle, j'avais envie que vous receviez ce qu'il souhaite, c'est pas obligé, hein, le scapulaire. Alors, j'expliquerai ce que c'est que le scapulaire, etc. Bon. Le scapulaire comme un peu le manteau de Marie. Donc l'idée c'est que nous vivions une journée le dimanche 12 juin. Il y aura une messe en paroisse le matin et puis l'après-midi nous irons dans une petite chapelle bretonne. Nous irons prendre un pique-nique ensemble. Ensuite nous aurons certainement encore une causerie, un temps de prière et nous vivons une consécration à Marie. Je peux pas faire ça, vous voyez, le dimanche en paroisse, on pourrait dire, tiens, on va faire une consécration en paroisse le dimanche, avec tout le monde, comme le sacrement des malades. Bon. En fait, on va le voir, la consécration à Marie, c'est un secret. C'est-à-dire que certains sont appelés, d'autres sont pas appelés. Alors, vous allez avoir, je sais pas quoi, vous allez avoir l'élite de la paroisse qui se consacre à Marie, puis les autres, non. Enfin, ça serait compris comme ça. Or, c'est pas ça du tout. Faut pas du tout que ça soit compris comme ça. Donc, c'est un appel. Marie, on la découvre. En général, les gens découvrent le Christ d'abord, souvent, qu'ils voient pas trop après. Pourquoi Marie? Puis après, ils découvrent Marie. Donc, c'est forcément de manière privée, un peu cachée. Bon, c'est pour ça qu'on le fera entre nous. En même temps, vous avez des paroissiens qui disent « Moi, je travaille ». Et j'aimerais bien vivre cette consécration à Marie. Je ne peux pas venir à 9h15 le mardi matin. Donc, il y aura une session de rattrapage à laquelle vous êtes tous conviés, qui va être le vendredi 10 juin. Donc, vous avez une journée supplémentaire, une soirée supplémentaire le vendredi 10 juin à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes. Préparation à la consécration à Marie en paroisse. Donc, nous avons une soirée. Je leur dis en gros, et je vous dirai à vous, parce que c'est surtout là que j'évoquerai la consécration à Marie, à quoi en gros on s'engage quand on se consacre à Marie, qu'est-ce que ça veut dire. Vendredi soir, le samedi, les gens méditent, en gros, ils se confessent s'ils n'ont pas pu se confesser, et le dimanche, deux jours après, ils vont à la messe, nous allons à la messe, et l'après-midi, on vit cette consécration à Marie. Ça va? C'est quand même bien étudié, hein. Il y a une session courte, une session longue, voilà. Mais ceux qui travaillent sont fortement invités à écouter sur Internet la session longue qui sera donc dans les jours qui suivent téléchargeable en MP3. Alors, qu'est-ce que la consécration? Je vous invite à prendre le texte en dessous, là, SM1, Secret de Marie. Un secret et non une dévotion supplémentaire. Voilà comment commence Louis-Marie. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit à condition que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, mortifications, persécutions et zèle du salut des âmes et détachement. Alors, je commande déjà ça. Pourquoi Louis-Marie dit ça? Vous allez le confier simplement à ceux qui méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, leurs mortifications, etc. En fait, il veut pas qu'on prenne ce parcours à Marie, cette consécration à Marie, comme une dévotion supplémentaire. Vous avez des gens, et le pape François en parle dans La Joie de l'Évangile, je ne vous ai pas mis le numéro, mais si vous voulez, je vous le donnerai. Vous avez des gens qui courent de cours en cours, de pèlerinage en pèlerinage, de conférence en conférence, sans jamais se convertir. Et donc, si vous leur faites une conférence supplémentaire, ben, ils disent « j'ai pas le temps de prier, puisque faut que j'aille à la conférence sur la consécration à Marie. Donc, je peux pas prier. » Donc, Louis-Marie Grignon dit « attention, voyez, ne donnez pas ça et commencez pas à proposer ça aux gens. Ils vont penser que c'est une breloque supplémentaire, un gris-gris supplémentaire, mais ils n'ont pas compris que le cœur de la consécration à Marie, c'était l'oraison, c'était l'aumône, la mortification, c'était prendre la croix du Christ, c'était le zèle du salut des âmes, c'est le détachement. Voilà. Parce que je suis dans cet esprit-là, eh bien à ce moment-là, je me rends compte que j'ai besoin de Marie pour vivre ce que je vis déjà et que j'ai du mal à vivre. Hein? Voilà. Saint Jean de la Croix dit ceci. On envoie un grand nombre insatiable de directions, de livres qui traite de spiritualité, à quoi il donne plus d'importance qu'à la mortification et à la pauvreté d'esprit. Jean de la Croix, œuvre complète dans la nuit obscure. Livre 1, chapitre 3. C'est vrai que, en fait, quand on réfléchit, Marie nous est donnée au pied de la croix. Donc, elle est donnée au pied de la croix. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle est déjà donnée à Cana, elle est donnée à l'Annonciation, elle est donnée tout le temps. Oui, bon, si on veut. Enfin, explicitement, elle est quand même donnée au pied de la croix. Donc, elle est donnée à des gens qui ont quand même fait un itinéraire spirituel. Aussi. Vous voyez, les disciples sont là. Alors, au pied de la croix, vous avez des disciples absents. Enfin, ils ont abandonné, mais ils ont fait un chemin quand même. Et puis, vous avez des disciples femmes qui sont présentes. Vous savez que les disciples, les femmes dans l'Évangile, sont celles qui sont vraiment disciples. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, je prends l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 41, « Il y avait là quelques femmes qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres encore qui étaient montées avec lui à Jérusalem. » On nous dit des femmes qu'elles le suivaient et le servaient. C'est exactement les mots qui sont destinés aux disciples. Elle le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Donc je comprends qu'on attribue aux femmes ce qu'on dit du disciple. Les femmes qui servaient et suivaient, hein, celui qui veut être grand qu'il soit serviteur, c'est ce qu'on dit aux disciples. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes, c'est ce qu'on dit aux disciples. Eh bien ça, ces deux mots de servir et de suivre sont destinés aux femmes. Et on nous dit que ces femmes, ça, servaient le Christ en Galilée, c'est-à-dire au commencement de la vie du Christ. Hein? L'évangile de Marc commence en Galilée. Donc elles sont là au pied de la croix et elles étaient là déjà en Galilée. Donc elles n'ont pas quitté Jésus. Elles ont toujours été disciples. Par contre, les disciples, les autres, eux, ils étaient là en Galilée. Mais au pied de la croix, ils sont plus là. Donc dans l'Évangile, les vrais disciples, ceux qui sont fidèles dans cette suite, hein, venez à ma suite, il en appela 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Ceux qui sont avec lui, les seuls à être avec lui, ce sont les femmes. Bon, en tout cas, les hommes sont donc plus ou moins présents dans le don de Marie au pied de la croix. Enfin, les hommes, il y a quand même Jean, Jean qui représente les disciples, et puis il y a les femmes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marie est donnée au pied de la croix, c'est-à-dire qu'elle est donnée à un moment difficile. Et je pense que Marie nous est donnée aussi quand nous, en fait, on n'arrive pas à suivre le Christ, et donc on reçoit Marie. En fait, et c'est là où vous reprenez, on va le voir au fur et à mesure, mais Louis-Marie dit, en fait, c'est tellement plus facile de vivre nos croix avec Marie. C'est tellement plus facile de vivre la vie spirituelle avec Marie. Il dit, on va beaucoup plus vite. Ce que va reprendre la petite Thérèse à sa manière quand elle va parler de la petite voix. Hein, la petite voix est entre guillemets un peu une reproduction de l'école mariale. La petite Thérèse est une icône aussi à sa manière de Marie. Une autre figure de Marie, bon, on verra comment. Mais voilà, soit vous faites la grande voix, un peu compliquée là, soit vous prenez la petite voix, la voix de la petite Thérèse, qui est une voix mariale, une vie cachée, comme Marie, et c'est beaucoup plus rapide. Donc moi j'aime bien, voyez, me dire, Marie nous a été donnée à la croix, c'est pas pour rien. C'est peut-être que Marie a un lien avec nos croix. Bon. Alors, deuxième point, toujours, hein, je continue les textes. Que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous occupez les gens et ça devient un poison parce que ça les éloigne. Hein, c'est un gris-gris, une dévotion supplémentaire, mais qui les éloigne du vrai combat, et donc ça devient ma condamnation. Voilà, bon. Et je le donne, ce secret, à condition, troisième point, que vous remercierez Dieu tous les jours de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite, de vous apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir, et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence, que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement, à cause de la multitude et de la grièveté de vos péchés et de vos attaches secrètes à vous-même. Donc là, il est en train de nous dire, en fait, je veux bien vous donner ce secret, mais à condition que vous vous en serviez dans les actions ordinaires de votre vie. Et ensuite, vous allez comprendre en quoi ce secret vous est profitable. À un moment donné, Louis-Marie, dans ses écrits, parle de l'expérience. Il dit, en fait, Marie, il y a une histoire d'expérience. C'est-à-dire que, alors on peut démontrer, on peut faire un peu de théologie, mais on s'aperçoit que, en fait, c'est en mettant petit à petit Marie dans notre vie qu'on voit que Marie, c'est important de la mettre dans notre vie. Je ne veux pas simplement être simplement dans la tête en disant « Oui, je dois mettre Marie parce qu'elle m'est donné la croix, ceci, cela, donc je la mets dans ma vie, puis c'est bon. » Non, je vais m'apercevoir par expérience que, en fait, je suis gagnant quand je mets Marie dans ma vie. C'est ce que disait j'aime bien le père Michon à Châteauneuf-de-Galore quand il prêche sa retraite sur Marie, ou quand il explique la dévotion à la Sainte Vierge, la consécration, il dit « Il faut rentrer dans une spirale de confiance ». Alors la spirale de confiance, c'est j'expérimente par exemple pendant un mois que je vais prier pour telle difficulté. Et je dis une dizaine de chapelets pour cette difficulté. On va se mettre avec quelqu'un, on va prier pour ça, ou je vais dire tout seul. Et au bout d'un mois, tiens, je fais un petit peu le bilan. Et je m'aperçois qu'en effet, en un mois, en fait, les choses ont bougé. Parce que j'ai mis Marie dans ma vie. Bon, voilà, il y a un truc que je reçois sur Internet qui s'appelle « Une minute avec Marie ». Et alors des fois, vous avez des tas de témoignages. Vous voyez, par exemple, il y a un témoignage, c'est donc un prêtre qui avait du mal avec la Sainte Vierge. Bon. Et alors, c'est un confrère qui lui donne deux médailles de la Sainte Vierge. Bon. Médaille de la rue du Bac. Il met ses médailles dans la boîte à gants, voilà, de la voiture. Et à un moment donné, il prend la voiture et arrive ce qui arrive, une bretelle d'autoroute, un machin, un pont, et voilà que la voiture quitte la chaussée, dégouline, débouline, etc. Et donc, gros accident, la voiture complètement écrabouillée, et les deux dans la voiture sont sains et saufs, et qu'est-ce qu'il y a sur leurs genoux, à chacun? La médaille miraculeuse. Voilà. Voyez, un petit exemple. Bon. Voilà. Alors, vous avez plein, l'abbé Laurentin, il a plein de petites histoires comme ça. Voilà. Et vous pourriez témoigner, vous aussi, en quoi, vous voyez, vous prenez, je sais pas, vous prenez par exemple le père Zanotis Sorkin. Il explique pourquoi, tac, il est arrivé dans sa paroisse à Marseille, première chose qu'il a fait, il a mis la Sainte Vierge, etc. Et en quoi, dès qu'il fait quelque chose, il fait avec la Sainte Vierge pour être gagnant. Voilà, le but, c'est d'être gagnant. Bon. Voilà, la deuxième chose, nous prenons Marie pour faire de nous des saints. Et donc, vous avez le petit texte que vous lirez chez vous. Alors, je vais simplement prendre, donc pourquoi prier Marie? J'ai mis cinq points, je trouve que c'est important donc d'enraciner intellectuellement les choses. Et donc, ah oui, voilà, c'est bon, j'ai mon papier. Alors, la première chose, pourquoi prier Marie? D'abord, on ne prie pas Marie. On la demande, on lui demande de prier pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Pourquoi prier Marie? Parce que Marie est notre mère. Derrière cette affirmation, en fait, c'est la question de la communion des saints. Les gens vous disent, moi j'ai déjà Jésus. Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un d'autre? En fait, Dieu nous donne une famille. Donc on a besoin des autres sur la terre. Et puis on a des amis dans le ciel, on a plein de gens qui... En fait, l'Église c'est une famille, quoi. Donc il aime bien passer par d'autres personnes, par des saints, par... voilà. Et donc par la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, en fait, elle est d'abord une disciple du Christ. Elle fait partie de l'Église. Simplement, dans l'Église, elle est au sommet de l'Église. Quand le Concile Vatican II parle de l'Église, dans la Constitution Lumen Gentium, donc il explique l'Église, puis à un moment donné, le dernier chapitre numéro 8, il est sur Marie. Au départ, les pères du Concile ont dit, est-ce qu'il faut faire un document simplement sur Marie, à part, ou est-ce qu'on met Marie dans l'Église? On a failli faire un document à part. On aurait fait un document à part, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait mis encore Marie à côté. Oui, à côté de l'Église, comme une sorte de grande déesse. Non. Marie, elle fait partie de notre peuple. Elle est avec nous, elle nous aide à marcher. Et dans l'Église, elle est notre maman. Dans l'Église, vous avez des frères et des sœurs, sur la terre, au ciel, et nous avons une mère. Pourquoi une mère? Parce que Jésus nous dit qu'elle est notre mère. Hein? Jean, voici ta mère. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas tellement une option spirituelle, Marie. Autant pour tel ou tel saint, vous pouvez ne pas accrocher avec Louis-Marie Grignon de Montfort, ça vous parle pas trop. Avec la petite Thérèse, vous trouvez que c'est un peu enfantin et pleurnichard. Padre Pio, vous trouvez que c'est trop, je sais pas quoi, sulpicien et doloriste. Très bien. Mais Marie, il n'y a pas trop d'alternatives. C'est-à-dire, un chrétien, il prend Marie avec lui dans sa vie. Bon. Alors, Marie nous est donnée à la croix. Je vais revenir là-dessus. C'est intéressant parce que là où l'amour s'exprime de manière la plus forte, hein, bien sûr, le Christ nous aime tout le temps, hein, dans l'Évangile, dès qu'il fait quelque chose, Mais il y a comme une manifestation, un dévoilement de cet amour qui se fait au moment de la croix. C'est pour ça que nous gardons comme signe du chrétien le signe de la croix. On aurait pu avoir comme signe, je sais pas, un tombeau vide ou un soleil pour signifier que le Christ est la lumière. On pourrait avoir d'autres signes. Hein, bon. Nous gardons comme signe le signe de la croix, comme le signe du chrétien. À une époque, le signe, c'était le poisson, bon, avec ictus, etc. Bon. C'est intéressant que quand Jésus exprime le plus son amour, manifeste le plus son amour, eh bien, il nous donne en même temps sa mère. Il aurait pu nous donner sa mère à un autre moment, mais il nous la donne sur la croix, comme si c'était le moment favorable. Donc c'est là où je pense qu'il y a quelque chose entre la croix et Marie. Je trouve intéressant que la petite Thérèse écrit son dernier poème qu'elle écrit, elle l'écrit au moment de sa maladie. Et c'est donc quelques mois avant sa mort, 5 mois avant sa mort, la petite Thérèse n'a plus d'emploi, elle ne peut plus dire l'office au cœur, elle est déchargée du soin des novices, et on est au mois de mai. Et elle dit ceci quand elle parle de Marie: Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Quand la petite Thérèse parle de Marie, elle dit: Moi, je ne vais pas en parler en disant des tas de trucs que vous inventez plus ou moins, et qui fait que Marie est inaccessible. Non, non. Avec toi, j'ai souffert, et je veux maintenant te redire que je suis ton enfant. Je peux m'approcher parce que tu es très accessible, en fait, Marie. Louis-Marie reprend dans ses écrits une référence à saint Thomas d'Aquin. On se pose la question, et c'est saint Thomas d'Aquin qui se pose la question, comment se fait-il que Marie, qui avait tous les talents, tous les charismes possibles, qui était remplie de l'Esprit Saint, comment se fait-il que, eh bien, tout ça ne s'exprime pas à l'extérieur? Finalement, Marie n'a fait aucun miracle. Marie est beaucoup plus accessible que je veux dire qu'un Saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui a été prêché partout, qu'une Catherine de Sienne qui a été voir les papes, et ou qu'une Jeanne d'Arc qui voilà qui commande des hommes. Marie, elle n'est pas comme Philippe Néri qui, quand il dit sa messe, lévite à 3 mètres de haut. Elle est beaucoup plus accessible que tous ces gens-là. Elle avait tous les charismes, elle n'en a exercé aucun. Ah si, le charisme de prophétie à la Visitation. Mais du coup, en fait, c'est là où Louis-Marie médite sur cette vie cachée de Marie, en disant, mais il y a un temps où elle devait justement être cachée. Et pour nous, on le verra à la Visitation, nous méditons, et avec la petite Thérèse, nous réfléchissons, en fait, Marie est celle qui va nous conduire dans cette vie cachée. Cette vie cachée qui passe par le mystère de la croix. Parce que la vie cachée, c'est ce que propose la petite Thérèse, c'est une vie qui demande un certain anéantissement. Voilà. La vie cachée, c'est pas simple quand même. Enfin, bon. Voilà. Alors, voilà pour le mystère de la croix. Vous avez aussi Saint Bernard avec le poème Souvenez-vous, que vous connaissez. Hein. Bon. Qui fait le lien entre le don de Marie et le mystère de la croix. Le don de Marie à la croix, c'est un événement central. Je vous ai mis les 5 épisodes au moment de la croix. Et donc, vous avez remarqué que le don de Marie à Jean est central. Vous avez d'abord la déclaration de Jésus comme roi des Juifs, le partage des vêtements, le don de Marie, le cri J'ai soif et le coup de lance. Événement central. Avec, deuxième chose, au moment de la croix, une révélation, ce qu'on appelle en exégèse un schème de révélation, un schéma de révélation. En fait, qu'est-ce que fait Jésus? Il va dévoiler quelque chose de ce qui se passe sur la croix, au pied de la croix. Il va dévoiler que Marie est notre mère, parce qu'on ne le voit pas, on ne le sait pas. Et pour ça, l'évangéliste emploie une expression qui va utiliser le terme « voir » et « voici ». Vous l'avez déjà avec Jean-Baptiste, j'ai mis la référence. Voyant Jean-Baptiste qui passait, Jésus dit « voici l'agneau de Dieu ». En fait, quand vous voyez Jésus, vous ne voyez pas l'agneau de Dieu. Vous voyez un grand bonhomme qui marche, un bel homme. Et Jean-Baptiste est en train de dire, voyez, cet homme qui passe là sur la route, il est tout petit. Il est l'agneau de Dieu. Et il est celui qui va être immolé. Donc Jean-Baptiste est en train de révéler que Jésus est en train... Non, non. Ah mince, oui, oui. Ah oui, j'ai bon, je l'ai corrigé sur la feuille là. Voyant Jésus donc qui passait, Jésus dit, voyez, oui, pourquoi Jean-Baptiste? Donc, vous corrigerez sur la feuille, hein? Hein, c'est pas Jean-Baptiste qui est l'agneau de Dieu, c'est Jésus, hein? Ça va? Bon, pardon, hein, j'ai écrit un peu vite. Voilà. Ça va? Hein? Hein? Ça va? Bon. Donc, Jean-Baptiste, en train de montrer l'agneau, en train de montrer Jésus, et dire, en fait, vous croyez que c'est un... vous croyez que c'est mon disciple, d'ailleurs, parce que on dit parfois que Jésus était disciple de Jean-Baptiste. Bon. Vous croyez que c'est le fils de Joseph, vous croyez ceci, vous croyez tout ce que vous voulez. En fait, je suis en train de vous dévoiler que c'est l'agneau. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec Marie. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Voyons, voici. Je suis en train de te révéler qu'il est ta mère. » D'accord ? Il le révèle à Marie, il le révèle à Jean. Voilà. Troisième point, enfin toujours avec la croix, l'accomplissement de l'histoire du salut. Donc là, c'est pareil, il faut que je corrige. Je lis verset 28 dans Saint Jean, Jean 19, 28. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, virgule, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, virgule, Jésus dit « j'ai soif ». En fait, il faudrait, vous voyez, là, il y a un problème de ponctuation même d'ailleurs, parce que on devrait dire en grec, après quoi, sachant que désormais tout était achevé, là on devrait à la limite mettre deux points, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, virgule, Jésus dit « j'ai soif ». Je tiens ça d'Ignace de la Poterie, qui dit que, en fait, quand Jésus donne Marie à Jean, qu'est-ce qu'on nous dit au verset suivant, hein, après le verset 26 et le verset 28? Eh bien, dans ce don de Marie à Jean, désormais tout est achevé. Pour que l'écriture fût parfaitement accomplie. Donc, le mot « pour que l'écriture fût parfaitement accomplie » ne s'adresse pas au cri « j'ai soif », mais elle s'adresse au don de Marie, au fait que tout est achevé. Est-ce que vous comprenez ou pas? Souvent, nous, dans notre tête, on pense que pour que tout soit accompli, il faut que Jésus dise « j'ai soif ». Eh bien, pour l'exégète Ignace de la Poterie, comme il n'y a pas de ponctuation en grec, c'est un peu compliqué, il dit que l'accomplissement, c'est pas le cri « j'ai soif », mais l'accomplissement, c'est le don de Marie à Jean. Voilà. En fait, le grand désir de Jésus, l'accomplissement, c'est que Marie soit donnée aux disciples. Comme l'accomplissement de la création, c'est la création de la femme. La dernière créature, c'est la femme. Et l'œuvre du salut se termine avec le don de Marie. Dire j'ai soif, bon, c'est important, mais c'est pas le plus important. D'ailleurs, c'est pas au centre. Vous voyez? L'événement central, c'est le don de Marie à Jean. Et donc, du coup, l'événement central, c'est peut-être que je sois disciple de Marie. Et d'une certaine manière, il est peut-être plus important d'être fils de Marie que d'être apôtre au sens, comment dire, au sens actif, mais un peu mal compris. Quand Jésus appelle ses disciples, il en appelle 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. On voit bien que le être avec Jésus est plus important et premier par rapport à être envoyé prêcher. De la même manière, on nous dit que la chose la plus importante pour un disciple, ben c'est d'être avec Marie, c'est d'être fils, fille de Marie. Comme si au pied de la croix, c'était central. La mission qu'on a dans le « j'ai soif », Jésus a soif de quoi ? Qu'on vienne... Mère Teresa, par exemple, interprète cette soif comme le fait de consoler le Christ en consolant les pauvres. D'accord. J'ai soif de sauver des âmes. J'ai soif de répandre un feu sur la terre. J'ai soif d'être aimé. Bon. Mais vous voyez, dans ce j'ai soif, il y a à la fois la communion avec Jésus, mais aussi la mission. Mais avant ce j'ai soif, il y a soit fils, soit fille de Marie. Voilà, sois disciple d'elle, et à ce moment-là, en étant vraiment disciple de Marie, tu vas être un véritable apôtre. Tu vas être en mission de manière ajustée. Voilà. Bon, la dernière chose sur le mot « femme », des personnages qui sont identifiés comme type, eh bien, je vous le dirai quand je ferai Cana, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Et donc il faut que je m'arrête.